Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour, bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Les onches, c'est l'histoire de la reprise d'une exploitation agricole familiale en Wallonie. Depuis l'arrivée des grands-parents de Virginie Gardin en 1956, en passant par la reprise de la ferme par son père et aujourd'hui par son frère. Comme dans la plupart des cas, sa famille n'est pas propriétaire. Avec ce documentaire, c'est une partie de l'histoire de l'agriculture de 1956 à aujourd'hui que Virginie raconte par le biais de sa famille. Les réformes, changements de normes, l'évolution de l'agriculture, les choix politiques et la problématique de ne pas être propriétaire de son bien.
C'est pas l'emplacement qui me dérange, c'est le sol, c'est parce qu'il y a plus facile comme sol. Hein. Parce que t'as pas beaucoup d'autres choix que de faire de l'élevage, quoi. Il faut s'adapter à l'élevage.
Et tu te sens plus cultivateur qu'éleveur ?
Non, pas spécialement. J'aime bien diversifier un petit peu. Tout le temps la même chose, je n'aime pas. Je ne passerai pas ma vie sur un tracteur du matin au soir. C'est bien, mais pas tous les jours. Diversifier, ça va.
C'était le paradis terrestre là-bas, à Hermeton. Hein. Enfin, on vivait un peu comme des sauvages, quoi. On vivait complètement hors du monde.
Les Onches, un documentaire de Virginie Gardin.
Avec nous, on voyait ça de loin. La collaboration entre Camille et Hervé, on voyait ça de loin.
C'était sûrement pas facile.
Non, ce n'était pas facile.
Ça n'a pas l'air facile entre Hervé et Thomas maintenant, non plus d'ailleurs. Je crois que les générations qui travaillent ensemble, c'est pas évident.
Non.
Parce qu'il y en a un qui doit lâcher, qui souvent lâche pas, et l'autre qui doit oser s'imposer et qui souvent n'ose pas s'imposer.
Par les platements, il ne peut pas y avoir deux coqs sur le même fumier, quoi. Faut que les choses se clarifient, quoi. Et toi, Viga, qu'est-ce que ça te dit, toi, par rapport à ton frère, comme ça, quand tu te dis
«
Je m'appelle Claudine, je suis la fille de Camille Gardin et de Raphaël de Sente. Ils ont eu 4 enfants, Jean-Paul, moi, et puis Dominique, et puis Hervé, qui est ton papa donc, et qui est mon cadet de 6 ans. Voilà. Quand mes parents se sont mariés en 1949, ils se sont expatriés dans un petit village qui s'appelait Remicourt, tout près de Clermont, qui est une petite ville de Picardie, dans le département de l'Oise. Donc, ils n'ont pas fait d'études prolongées ni l'un ni l'autre. Je pense que papy a arrêté l'école vers 13 ans et mamie aussi 14 ans, je pense. Et il fallait trouver une ferme. Ils n'avaient pas d'autre métier que ça, être agriculteur. La ferme de Remicourt était trop petite. Ils voulaient 6 enfants. Il y en avait déjà 3. Et il se fait que l'oncle Achille était déjà à Hermeton. Ils ont beaucoup insisté auprès de papa. Qu'est-ce que tu fais tout seul en France, hein? Et là, tu peux avoir une ferme de 60 hectares. C'est quand même mieux qu'ici, où tu n'en as que 35, etc., etc. De fil en aiguille, bon, je crois que papa s'est laissé influencer. Ouais. Sa maman en a beaucoup voulu à papa aussi. Mais la ferme n'est pas une bonne ferme. Elle était moins bonne que celle de Remicourt, qui n'était peut-être pas extraordinaire non plus, mais la terre était moins mauvaise à Remicourt quand même qu'à Hermeton.
Est-ce que tu peux m'expliquer les travaux qu'il y a eu ici à la ferme, pas seulement quand toi tu étais ici, mais de ce que tu connais dans les modifications de la ferme?
Papy est arrivé en 56. Donc ils ont commencé les travaux en 57-58. Quand papy est arrivé, il n'y avait déjà pas la façade. Ça, il a mis toute la façade en crépé, il a mis des pierres de taille, le propriétaire, il a remplacé tout le toit. Il a fait le trottoir.
Avant ça, du coup, elle ressemblait à quoi?
Ouais. En briques, c'était tout en briques, comme derrière. Donc l'établi ici, il a construit ça dans les années 60. Par là. Moi, ça a pris plus d'un an, hein.
Toi, t'avais quel âge à ce moment-là?
Elle était finie pour quand Dominique a fait sa communion. Donc, il a fait sa communion à 11 ans. Il est né en 54. Donc, ça devait être fini, grosso modo, pour 65, par là.
T'avais 7 ans, quoi.
7-8 ans, oui. Ça, c'était le dernier travaux du propriétaire. Et sa fille, elle n'a jamais fait grand-chose, Madame Jeanne.
Moi, quand j'étais gamin, pour moi, c'était évident que plus tard, j'allais être fermier, que j'allais reprendre la ferme. Je suis le fermier raté, finalement. Voilà. En fait, moi, je pense que dans mes 3 garçons, j'étais celui qui était le plus, je dirais, orienté vers le soin aux animaux, traire les vaches, nourrir les veaux et tout ça. Que Jean-Paul, donc frère aîné, lui, c'était tracteur, machin. Les bêtes, c'était pas trop son truc. Et Hervé, finalement, je ne sais pas. Où est-ce qu'il était, lui, d'ailleurs? C'est plus tien, ben oui. Bon, certainement qu'il travaillait aussi, mais j'ai pas cette vision. J'ai pas cette vision-là.
Monte dans le pick-up. Allez, ah ouais. Oh. Hop. 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 Ah, c'était couille.
Ton papa a toujours dit, depuis tout petit, moi je serai fermier. Moi je serai fermier. M'en fous, moi je serai fermier. Et alors, à l'école, il n'en a pas fait plus qu'il fallait, je suppose, parce qu'il était hyper doué. Hein? D'après son instituteur, il était hyper doué, au moins autant que Dominique.
Pas déjà à l'école primaire, et puis mon instituteur m'avait déjà dit, il m'avait dit, enfin écoute, t'as une trop bonne tête, toi, pour. T'es trop intelligent pour faire la ferme, quoi. Alors, fais ingénieur agronome, Comme si quelqu'un d'intelligent ne pouvait pas faire le métier d'agriculteur, quoi. Alors, c'est un peu bizarre. Mais ce qui a été déterminant, effectivement, c'est que j'avais un frère plus jeune. Qui, lui, était certainement, je dirais, aussi intelligent que moi, mais qui, pour qui finalement les études c'était pas son truc.
Je vais voler dans le trou. C'est une connasse.
Attends, on dit une papa téléphone et il arrive.
Ah, viens, on va mettre ta porte, hein, choupette. Viens.
Ondine, arrête un peu, s'il te plaît. Viens, viens, prends-la.
Et ça te fait quoi d'être dans la maison ?
Question vache, ça.
Bah, oui, peut-être.
Non, anxieux. Plus anxieux que stressé. Voilà, ça, question d'anxiété, c'est... Anxieux par rapport à... par la suite. Comment ça va aller ? Pour la reprise.
Pour ta reprise ?
Pour la reprise ici, ouais.
Ouais.
Savoir gérer seul alors que pour l'instant je gère pas seul. Bah disons que papa a toujours tout fait. Donc quand tu veux faire, c'est non, laisse-moi faire. Et si je veux essayer, c'est arrête de faire ça, pas le temps de faire ça, puis c'est tout.
Maman, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Jébis Marianne, née le 24 du 12 en 1959, à Namur. Donc j'ai 63 ans. Études, professionnelle coiffure. Travaillé presque 6 ans en coiffure. Je suis arrivée à la ferme en 1983. Donc, je suis arrivée le 2 octobre, le jour du décès de ma belle-mère. Mais on avait déjà aussi une petite fille qui s'appelle Virginie, qui a fêté ses 2 ans ici. Et puis, j'y suis depuis, donc ça fait 40 ans.
Je donne le numéro de qui à Thomas.
Bienvenue, il se voit. Et oh.
Ben oui,
et
ça va.
Ah ben oui, je n'ai pas compris. Thomas, je n'ai pas fait. Oh, ça va, comment on se parle?
Comment on se parle?
Bah si.
T'as enregistré ?
Oui, mais je ne vais pas tout mettre, ne t'inquiète pas.
Bah, c'est casse-couille. Bah, si tu peux le mettre. Mon mari est hospitalisé, il est casse-couille. Il n'obéit pas. Il ne... Bah, préviens Thomas. Bah, oui, bah, il est où ?
Mais comme tu le dis, voilà, t'as fait des études de coiffure, puis après t'es venu à la ferme, et je voudrais que bah, t'expliques ce que ça a changé pour toi quand t'es arrivé à la ferme ici, comment t'as... embrasser le métier.
Donc, ce fut un choc, du jour au lendemain, de se retrouver ici. Mais quand t'es jeune, tu es fort, donc tu n'as pas vraiment peur les premiers jours. Tu aides ton mari qui est dans la peine, tu es pris dans l'engrenage de l'événement. Le plus dur arrivera après.
Ben, ta maman, quand elle est arrivée à la ferme, je crois que ça a été quand même un choc pour elle parce qu'elle s'y attendait pas pour si vite, quoi. Hein. Vu les circonstances, elle est arrivée là parce qu'elle était fermier, parce qu'il y avait eu l'accident et que maman n'était plus là et qu'il fallait quelqu'un sur place. Et elle est arrivée là, ça a dû être un choc pour elle. Je me souviens quand on a téléphoné pour dire que papa quittait l'hôpital, c'était le blanc, quoi. Oui.
Et voilà, donc le travail t'apprend un petit peu tous les jours et puis tu t'habitues. Ce qui n'est pas évident du tout, c'était plus le fait de vivre avec le beau-père qui était un peu dérangeant. Forcément, on habitait chez lui. Voilà.
D'ailleurs, ta maman l'avait bien compris aussi, hein. Il a quand même lancé un ultimatum à papy en disant écoute, il faut ou bien c'est toi qui pars ou bien c'est moi qui pars. Hein?
Elle s'est défendue comme elle a pu. Ça pouvait paraître choquant qu'elle dise que papy devait partir, mais d'un autre côté, c'était logique.
Non, mais il est parti, ce beau-père.
Oui. Bon, ça, je ne l'explique pas. Il est quand même resté deux bonnes années avec nous, quoi.
Ah ben, je ne me rendais pas compte que c'était 2 ans.
À peu près. Je ne sais plus la date, je n'ai pas noté, mais c'était long. Parce qu'entre-temps, donc, on a eu une autre petite fille, Pauline. Donc tout ça, voilà, papy est encore avec nous. Après la naissance de Pauline, ben, ça a été quelques temps. Et puis j'avais de plus en plus difficile de vivre avec papy. Voilà. Mariage de mon ménage.
Quand on a repris, on a commencé par faire l'autre hangar en bas, hein, qui est accroché à l'étape. Là, ouais. Et puis celui-ci c'est en 87, 7, 8. Hein? Et en 92, on a fait l'hangar là-bas, qu'on a agrandi en 96. 2002, on a fait les deux poulaillers, là. Un en 2002 et l'autre en 2003. Mm-hmm. Ça, tu t'en souviens?
Oui, je m'en souviens.
1-2, 1-2. 5 mars 2003. Arrivée des poussins de 8500 poussins à la ferme des Onges. 8400 poussins à la ferme des Onges.
4000.
Non, 8000. 8.
4.
8, Élise. 4 dans chaque bâtiment, ça fait 8.
Mais pas aujourd'hui. Dans les deux.
Bon. 5 mars 2003. arrivée de 4200 poussins dans un premier bâtiment à la ferme des Onges. Ça va, c'est bon, tu vas arrêter de me reprendre?
Oh, vous êtes belle, vous êtes tout ça. C'est le rêve.
Regarde
ça. Regarde. Ouais, maintenant. Regarde toute leur tête, tu lèves. Hop, hop, hop. Comme ça, attentif, quoi. Regarde ça. Papa, t'as vu? Papa?
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 Ils ont dit, non?
Appelez-la pour ne pas qu'ils sortent.
Je suppose que ça a quand même une différence entre le poulet McDonald's.
Ah, je sais pas comparer.
Cheeseburger.
Oui. Ça, ça manque dans le bio, c'est le label. Le label est trop petit.
Mais là, non, le logo n'est pas assez gros.
Le logo n'est que les poulets...
labellisés en France.
Les poulets labellisés, même en Belgique.
Oui, hein. Mais enfin plus encore.
Les poulets labellisés,
allez, un plus grand...
Ah ouais, donc ça marque plus. Ça marque plus, ça attire plus le consommateur, le labellisé, que le bio.
En 2007, les deux porcheries, là, qui ont fait le poil 15 ans, et en 2013, Thomas a fait ses deux poulaillers derrière. Et en 2022, on a transformé la porcherie. Voilà. Et on a fait le tour.
Après, ce qui est compliqué... Ça, c'est pas l'outil en tant que tel, c'est des interventions du banquier qui dit, mais ton outil, ça vaut zéro. Parce que c'est construit sur autrui. On peut pas lui prêter de l'argent, parce que l'outil ne vaut rien. Comment ils peuvent dire ça?
Ben, les bâtiments, tu pourrais racheter les bâtiments, que les bâtiments t'appartiennent.
Ben si, c'est acheter le fonds bâti. Juste la superficie
du... Juste la superficie du bâtiment, quoi.
Ben voilà, si j'achète déjà le bâtiment, c'est ça, aux parents, je peux pas racheter deux fois le bâtiment. Ben moi, j'ai pas envie d'avoir des emprunts comme ça jusqu'à mes 60 ans. Je vais pouvoir en profiter un peu avant, ou toi.
Mais t'as pas l'impression que c'est un peu inhérent à la fonction, quoi?
De quoi d'emprunter?
D'avoir des emprunts toujours en cours.
C'est pas le fait de faire un emprunt. C'est d'avoir un emprunt sur un truc qui continue, au bout duquel on va te dire, bah, en fait ça vaut zéro. Parce qu'ils ont construit sur autrui. Après, tu peux envisager d'autres emprunts que de rembourser un truc qui ne t'appartient pas, c'est ça le truc. C'est compliqué.
La vue, oh ben écoutez, juste ici en face, c'est le village de Gauchenay. C'est pour ça que j'adore déjeuner ici en plus. Mais j'ai mes jumelles et j'aime bien de regarder les oiseaux aussi qui se mettent ici sur les arbres, dans les branches et tout ça. Et ce qui se passe là-bas, il y a une exploitation, ils ont des moutons. Les petits moutons sont déjà grands.
Bon, ben, écoutez, moi je m'appelle Christine Smeyers, je suis la fille de Jeanne de Besse et Paulo Smeyers. Jeanne de Besse, ma maman, était elle-même la fille de René de Besse qui, lui, dans les années 30, a acheté cette propriété. Il n'y avait pas encore la maison. Il se plaisait beaucoup dans la région, donc au fur et à mesure, il a acheté tout ce qui se présentait à vendre dans les environs.
C'est impressionnant, du coup,
le territoire qu'il a pu...
Oui, qu'il a pu. Il était industriel, hein, donc disons qu'il avait une certaine... il avait un peu les moyens, et puis il aimait bien la région aussi. Donc chaque fois qu'il y avait quelque chose à vendre, il l'achetait. Et même si c'était un tout petit morceau de bois ou des choses comme ça, en se disant, oh, ben, ça c'est peut-être un peu excentré, mais à la limite, ça peut me servir, parce que je pourrais peut-être échanger par la suite avec quelque chose qui est plus près de ma propriété et qui arrangerait bien l'autre propriétaire, des choses comme ça. Donc... voilà pourquoi il a acheté aussi les fermes et les terres par là. Je suppose que c'est dans le même état d'esprit. Mm-hmm. Et donc, la ferme des Onges qui m'appartient maintenant, je la tiens par succession de mon grand-père via ma maman. Voilà. Je n'y connais rien en agriculture, soyons honnêtes, hein, un petit peu le jardin et encore... donc, je leur laisse la totale liberté de gérer leur entreprise, puisque c'est ça, comme ils l'entendent. Je suppose que ça marche bien, puisque maintenant, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils y sont et que ça tourne. Donc, je n'ai pas de raison d'aller mettre mon grain de sel là-dedans. Hein. Voilà, c'est ça. En fait... oui, ils me disent, bien sûr, ils me tiennent au courant, s'ils veulent faire des modifications, des choses comme ça, on en discute, mais je leur laisse totale liberté de ce côté-là. Justement, avec votre papa, je ne sais plus si c'est directement avec lui ou avec Thomas, on a un bail de superficie, c'est vraiment un truc spécial, comme quoi il construit un bâtiment qui lui appartient, mais qui est sur un terrain qui m'appartient. C'est spécial, hein?
Et oui, donc, vendre la propriété, ça, c'est pas quelque chose auquel vous avez pensé? Ou
non.
Quelque chose que vous vouliez faire?
Non, pas du tout, non. Ah non, ça, vendre, sûrement pas. Bon, maintenant, je vous dis... ça, c'est mon avis. Je crois que mes frères sont dans la même optique. Mais bon, après nous, que feront les autres? Ça, je ne sais pas. Le chien est toujours là. Mais il est beau, il est calmé hein, maintenant.
Le chien est mort.
Ah, il n'y a pas longtemps alors.
Il s'est fait écraser par le tracteur.
Ah, oh, le pauvre.
Mes parents pensent qu'il était déjà mort avant. Il était vieux et mon père a roulé dessus. Il n'a pas entendu aboyer, il n'a pas entendu crier.
Oui, sinon il aurait hurlé.
Bah oui, un minimum.
Oui.
Ah oui, non, ça a été dur pour mes parents.
Ah oui, ça je comprends. Parce qu'il était, ça faisait longtemps qu'il l'avait, il était vieux, hein.
Papy n'a jamais rien construit, lui. C'est toujours trop cher. Et puis c'était pas ce bâtiment. Ah, peut-être pas, toi. Lui, il pouvait se permettre de faire sa carrière comme ça. Par la suite, c'est... il n'y aurait plus moyen. Et vu que ce n'est pas le propriétaire qui allait investir, mais... il fallait bien investir soi-même. Que le banquier te dit quand tu veux remettre ça de vos rêves, M. Gardin, vous avez construit sur autre. Dans la conséquence de tout ça.
Voilà la conséquence de tout ça. L'heure est avancée, on cherche à une heure.
Ah, ok, ça va.
Voilà. Ben, tantôt.
Ouais.
Anders moeten de hier komen. Ik ga hem makkelijk eens even bed doen.
Alors le cheptel, ça, on avait des vaches laitières, on avait des petits veaux, il y avait des cochons, oui. Je ne sais pas, il n'y avait pas beaucoup de truies, il y avait peut-être 4-5 truies, pas plus. Et puis on vendait les porcelets quand ils avaient quelques semaines, à mon avis. Parce qu'on n'avait pas la place pour de l'engraissement, donc quand ils avaient quelques semaines, ils partaient, quoi. Voilà. Et... bon, il y avait certainement un taureau, je ne sais pas où il logeait, lui, sûrement dans l'étable des vaches. Donc, il n'y avait pas plus de 20 vaches, tu sais. Moi, je dirais entre 15 et 20 vaches au début. En plus, il y a eu la tuberculose. Et donc, il a fallu éliminer le cheptel et reprendre petitement. Donc ça, ça a été un coup dur quand même. Et puis, bon, ben, ils ont résisté, hein, ils se sont accrochés. Ouais. Et puis, bon, c'est reparti. Quand j'avais 18 ans, je me souviens que maman disait que maintenant, elle se sentait bien. Qu'il y avait du cheptel et qu'il y avait un peu de rentrée d'argent, mais que ça avait été fort dur. Tes parents ont ramé comme mes parents ont ramé, sûrement.
Ah, mais j'ai oublié les beaux épisodes. C'est vrai que j'ai oublié des trucs. On a eu la leucose au début, la brucellose après, qu'il a fallu liquider tout le cheptel et racheter des vaches bien chères. La merde, quoi. Mais la brucellose, donc elles avortent et ça, c'est quand j'étais enceinte de Thomas. Que Yura a téléphoné pour dire qu'on avait la brucellose. Je devais aller à la clinique parce que le bébé ne grossissait pas. Je devais aller passer, c'était avant les fêtes, enfin, c'était au mois de décembre, sûrement, un truc comme ça. Et je sais bien qu'on on avait garni le sapin, vous deux, Pauline et toi. Et je devais, c'est Pépé qui m'a conduit à l'hôpital parce que papa était assis autour de la table et qu'il n'était pas. Et il ne savait plus parce qu'il fallait liquider toutes les vaches, etc. Elle était anéantie, donc voilà. C'était la catastrophe.
On s'est tracassé quand même aussi pour eux, hein, quand il y a eu quand même quelques années de galère, avec la brucellose, avec. Ça n'a pas toujours été rose et violette, hein, ça n'a pas toujours été facile, et c'est vrai que. Quand il y a eu des années galères, ça m'avait renvoyé un petit peu aussi aux années galères que mes parents ont connues aussi.
Après ça, donc on a déjà Virginie, Pauline, Thomas. Maintenant, on est, on va dire, en 92, on a Élise. Ah, donc qu'est-ce qu'il y a encore eu comme cri? Ah, on a eu la dioxine aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu? La vache folle. Oh, il y a eu encore une autre crise sûrement.
La chaleur.
Ouais. La langue bleue. Dans les bovins. Et la politique agricole commune. Voilà, quand on a commencé, on n'avait pas ça. Ça, ça date de quand? Parce qu'on a commencé avec des toutes belles petites cartes. Il fallait redessiner les prairies permanentes, les comment... Est-ce qu'on se met dans certaines terres, etc., mettre des numéros, etc. Donc c'était... Et puis après, il y a eu les photoplans, les orthophotoplans. Et puis maintenant, il y a le satellite, je ne sais pas comment il s'appelle, à nouveau, qui tourne et qui voit. À la limite, il voit les nombres de vaches que tu as dans ta prairie. Et il y en a un qui nous a dit, à la limite, ils savent même presque lire le numéro de la boucle de la vache. Avant, tu déclarais, par exemple, quand j'avais les scouts en prairie, tu déclarais que tu avais des scouts de telle date à telle date. Mais maintenant, parfois, tu as bien quelqu'un qui occupe, on va dire, deux jours, tu ne déclarais pas. Mais si tu ne le fais pas, on te supprime tes primes. Donc, s'il y a une autre activité qu'agricole, il faut le signaler. Si t'as une tente, tu peux pas dire « Ah ben mes petits-enfants vont aller mettre leur tente là. » Tu peux pas. Ou alors faut que je le signale, c'est tout.
Donc il faut se réadapter. Mais de toute façon, il faut toujours se réadapter en permanence. Donc, quand ils font des packs, c'est pour 5 ans... Et quand tu investis, ce n'est pas pour 5 ans. Puis d'une à l'autre, il faut se réadapter dans, tout à fait dans un autre sens. Et dans... Ouais. Se réadapter, ça coûte, hein, chaque fois.
Interview, mars 2003.
Mais la raison pour laquelle on ne fait plus, c'est par gain de temps ou alors enfin, parce que ça...
Parce qu'il fallait faire des frais pour la QFL.
La QFL qui est ?
La QFL, la qualité filière lait. Mm-hmm. Donc pour être membre de la qualité filière lait, il fallait faire des frais. Il fallait déjà déplacer la laiterie de place.
Comment ça ?
Ben parce que la laiterie doit avoir un accès extérieur direct.
Donc, continuer à chercher le lait, c'était pour leur faciliter à eux, ça, alors, c'était
pas... Ah, c'est la nouvelle norme, mais les... C'est plus la laiterie qui ont voulu ça. Alors, pour 100 000 litres de quota, ben, ça ne valait pas la peine. Alors, ils ont dit, ben, si on ne fait pas partie de la qualité filière lait, on ne prend plus le lait. Ouais. Si on ne prend plus le lait, ben, on ne prend plus, c'est pas compliqué.
Non, c'est pas compliqué.
Donc ici, la nouvelle PAC maintenant. Il y en a qui sont en train d'avoir des collègues parce qu'ils ne soutiennent plus les grands nombres en bovins. Pour l'environnement, ils veulent diminuer. Donc ceux qui sont à fond dans le bovin maintenant, ben, ils font des cacas nerveux, ben, chacun son tour. Alors voilà. Donc ceux qui étaient à fond dans le blanc, bleu et dans la prime et dans le machin, ah ben ceux-là, ils verront la différence. Pour une fois, on n'est pas impacté, nous. Avec la nouvelle PAC. On n'est pas impacté par la PAC.
D'accord. Voilà, voilà. Et on n'a pas encore tout compris à la nouvelle PAC. Donc.
Elle est sortie quand, la nouvelle PAC?
Ah ben, elle va être d'application en 2023, mais elle n'est pas encore votée.
La région Wallonne a accordé le fait que je construise deux poules alliées. Donc j'ai construit en 2012-13. Et en 2015, il y a une loi qui est passée, la loi avec, pour la gestion autonome. Parce qu'il y avait des abus au niveau de la PAC. Parce qu'il y avait une surprime pour les 30 premiers hectares. Donc, tout ce qui était gros propriétaire faisait plein de petites sociétés, gestionnaires de 30 hectares chacune. Et à chaque fois, ils touchaient le maximum. Et la réglementation bio dit c'est pas plus de 3 bâtiments par numéro de TVA, enfin, par exploitation.
Comme on est à 90 hectares, j'en ai 30, papa en a 30, Thomas 30. Tous les champs sont bio, tout est bio, sauf les porcheries, les cochons sont de qualité différenciée. Donc on a 2 numéros de producteurs, mais il n'y a qu'un numéro sanitaire, un responsable, c'est papa. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes la ferme vue du ciel, tu vois quoi? Tu vois une ferme, tu vois un site, avec une route pour y aller.
Si t'avais fait tes 2 poulaillers là-bas, et papa, s'il avait ses 2 poulaillers de l'autre côté de la route...
Mais chacun d'un côté de la route, c'était bon. Ouais, parce qu'en plus, on faisait un peu comme les... Entre guillemets, les grosses boîtes, c'était 30 hectares chacun, mais nous, c'est parce qu'on est 3 sur la ferme, et la ferme, c'est 90 hectares, donc... C'est comme ça. C'était pas voulu. Et donc, du coup, ben, les 2 poulaillers des parents, plus mes 2 poulaillers, ça fait 4 poulaillers. Il y a un poulailler de trop. Et gestion autonome, c'est, tu dois avoir ton compteur électrique, tu dois avoir ton tracteur, ta benne pour faire tes poulaillers, chacun de son côté. Ben, après, on dit, travailler en famille.
Avec, au début, bon, qu'est-ce construire, etc., etc. Puis après, ben, les normes changent. Puis en bio, tu ne peux avoir que 3 poulaillers sur le même site. Ça, tu le sais des années après, hein. C'est quand même terrible.
Est-ce que c'est pas un peu des conneries?
Ah ben... C'est la législation.
Je crois que quelqu'un essaie de te joindre.
Du mazout pour les tracteurs.
Et c'est facturé à quel nom ?
Garda Hervé.
Ton statut dans l'exploitation ?
Ben je suis... Ah ! Je paye mes droits sociaux et de 1. Donc je suis indépendant. Enfin voilà. Ça c'est Madame Laruelle qui a été ministre. Elle a dit que les femmes devaient avoir un statut. C'est elle qui a fait voter ça, cette loi.
Donc c'est pour les tracteurs.
Il y en aurait combien?
Bah c'est plus que 2000 en général.
Je ne sais pas vous dire, mais ce sera début de semaine prochaine parce que ici vous êtes à Vièvre, mon collègue était en ligne.
Et maintenant mon statut là maintenant, bah, l'année passée, comme papa a pris sa pension, je suis chef d'entreprise, donc je paye plus de lois sociales, donc c'est de là. C'est chiant parce qu'il faut remettre tout. Voilà. J'ai eu un coup de fil d'un monsieur qui faisait une enquête aussi agricole là. Il me dit. C'est quoi votre statut? Ben, je dis secrétaire puisque je vous réponds. Voilà mon statut, secrétaire.
Ben, en général, quand on téléphone, c'est contre ça. Je ne sais pas, mon mari apparemment vient de faire le plein du tracteur, mais je ne sais pas trop. Voilà.
Donc, on a juste lundi au mardi.
Il n'y a pas moyen, un peu plutôt lundi quand même. Ils annoncent du beau temps, je crois, non?
Non, tu investis, tu construis des infrastructures et tout ça, et sans savoir si 5 ans ou 10 ans après, si ça va encore marcher, si ça va encore être ça. Si... Moi, je dis, c'est vraiment devenu un métier difficile, compliqué. Alors, quand je parle de quelque chose, que ce soit Hervé ou Marianne qui me disent, c'est pas comme ça que ça va, c'est plus comme ça, là, là, là. Ah oui, d'accord, je suis plus au jus, quoi. Je suis plus au courant de comment ça se passe dans la réalité, quoi. Enfin, dans la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un métier qui a fort évolué, qui a fort changé, malgré ce qu'on peut croire, sur, on va dire, sur 50 ans. Hein.
On explique partout que le nombre d'exploitations agricoles a tellement diminué. Elles sont devenues plus grandes, hein, très mécanisées, très industrialisées, et que si tu es sur une petite exploitation, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, il faut avoir des bons filons pour pouvoir résister. Au niveau de Thomas, je pense que c'est quand même tout à fait faisable, hein, mais enfin, voilà. Mais il y a de quoi se poser des questions, je comprends.
Après tout ça, si tu fais un petit coup d'œil dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu penses, toi?
Bonne question. Bonne question. Bonne question. Pas qu'on arrive au bout. Au bout du bout. De toute façon, il fallait bien faire quelque chose, donc c'est plus par obligation que parce qu'on aurait fait d'autres. Bon, maintenant, je suppose que ça va partir, pour de bon. Normalement. Ok, un successeur, donc...
On a réussi à faire des études à nos enfants. Un parcours de vie qui n'est pas encore fini, mais enfin voilà, qui est déjà bien avancé. Pour la ferme, c'est fini, voilà.
Ça va, Bigard?
Ça va et toi?
Ah oui, tu continues ton reportage finalement. Oui. C'est une nouvelle migration là.
C'est ça. Ouais.
Et c'est vrai que. Combien? 65 ans? 66 ans qu'il habite ici le.
Ben oui, papa, il est né ici. Hein.
Enfin, il est né à Namur, mais c'est pour ça qu'il est un peu lent.
Papa a cassé les deux dernières tasses rouges. Voilà.
Ce sera sans moi déménager, les gars.
Oh, il y a de la poussière là-dessus, hein. Oh, qu'il y a de la poussière là-dessus. Et donc voilà, 66 ans, c'est un tournant.
Ça va? T'as bien dormi?
Jusque 4 heures.
C'est... ça va être un grand changement. Mmh. Ah oui. Et sans doute encore plus pour Marianne que pour elle. Parce que lui, il va revenir quand même encore.
Bon. Oui, mais maman aussi, je crois.
Oui. Ah oui, c'est vrai, elle va continuer à faire la compta.
Si, c'est, pas,
si, si, c'est ce qu'elle a dit, qu'elle ferait les papiers. Voilà. Mmh.
Tiens, tiens, tiens. Bonjour, ma grande. Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ben ça va, ça va. C'est un drôle de jour, mais ça va.
Et puis finalement, je crois que c'est quand même le déménagement de toute une famille, hein?
Oui, oui.
Mais ouais, mais je veux dire, toute une famille, tu vois, plusieurs générations, un peu tout le monde, quoi.
Ah oui, en plus. Ouais, 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 ouais. Parce que tout Thomas, il bouge aussi, quoi. Mm-hmm. Il va...
Et puis... Oui, c'est ça.
C'est un peu comme au couvent, quoi. Tu y entres et puis tu n'en sors que bien plus tard ou les pieds devant. Non, pas forcément les pieds devant. Non.
Ouais. Ouais, c'est un gros bagage.
Comme je disais à ta maman, on se sentait un petit peu à la maison, quoi. Hein, mais ça va être différent, hein. Tout en respectant les autres de ce lieu, on se sentait quand même chez soi.
Et Thomas, il vit ça comment, lui? Parce qu'on ne le voit pas.
Ben non, non. Il est
assez... Oui, oui, oui. C'est ce qu'on t'a tes œufs.
Ouais.
Je me demande... Oui.
Et en même temps, est-ce la ferme ou est-ce le lieu, je sais pas. Il y a un historique, puis il y a, je sais pas. Bah, depuis tout petit, bah, on allait travailler à la ferme. Il y a une petite brouette rouge à toi.
Ouais.
Qu'on donne le maïs aux vaches. Bah, si, t'allais avec les grands-parents, les parents. Bon, ce qui est chiant, c'est tout ce qui est conflit, là. Encore. Conflit, qu'est-ce que ça traîne, ça amène des tensions. Puis du jour au lendemain, t'as envie de tout plaquer. Puis le lendemain, tu te réveilles, je sais pas. T'as un village, un beau petit veau, t'as un beau soleil, tu te dis, bon, on est bien. Puis...
C'était. Les Anges. Un documentaire de Virginie Gardin. Avec les voix de mon père, Hervé, ma mère, Marianne, mon frère, Thomas, de ma tante, Claudine, et mon oncle, Dominique. Et de la propriétaire, Mademoiselle Christine Smeyers. Prise de son, Virginie Gardin. Montage, Roxane Grinet. Mixage, Mathieu Charret. Musique originale de LTDMS, enregistrée par Thomas Turing. Illustration, Pauline Gardin. Merci à mes sœurs,
Pauline et
Élise. Merci à ma famille,
Denis Gardin,
Cécile,
Nicolas,
Mélanie,
Manu,
Capucine,
Olive,
Léonie,
Marius.
Et à tous les autres, bien sûr. Merci à Zoé Sulico et Leila Di Gregorio. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Commune et du Centre culturel d'Astière. Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique. Une production chez Nadine ASBL.
Gymnastique sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu Les Onches, un documentaire de Virginie Gardin. Pour continuer les exercices et développer votre cochlée, vous pouvez retrouver nos émissions sur canalb.fr. À la semaine prochaine.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.